Bonsoir, merci d'être venu pour cette rencontre avec Belinda Cannon. Merci aussi de penser à faire comme moi et à éteindre votre téléphone portable. C'est quelque chose que j'oublie toujours, mais Marie-Hélène vient de me rappeler que c'était un geste indispensable, comme ça nous serons vraiment entre nous. Je suis enchanté de rencontrer Belinda Cannon qui enseigne à l'université de Caen. Qui enseigne quoi d'ailleurs ? La littérature comparée ?
C'est ça.
Voilà, qui enseigne bien la littérature comparée et dont je viens d'apprendre qu'elle anime par ailleurs ce qui, à ma connaissance, doit être un des premiers ateliers d'écriture en université existant en France. Peut-être sur le modèle des workshops qui existent aux États-Unis, je n'en sais rien, qui sont assez fréquents là-bas, mais qui sont encore à peu près inédits en France. Donc, Belinda Cannon est quelqu'un qui est romancière, qui est essayiste, qui est universitaire, qui a donc de multiples accès, de multiples points d'entrée dans la littérature. Et ça va rendre, je pense, notre conversation autour de Adolphe, de Benjamin Constant, particulièrement intéressante, parce que ce texte court et qui n'a peut-être l'air de rien à première vue, s'avère être à la lecture et à la relecture et à la relecture encore absolument passionnant. C'est aussi un texte très multiple qui se prête à de nombreuses approches, ce qui n'a pas échappé à son éditeur, Jean-Marie Roulin, qui a procuré ici pour l'AGF l'édition qui sera, comme toujours, notre édition de référence, puisque c'est la collection de notre partenaire de ces rencontres, l'AGF, Garnier Flammarion. Comme toujours, je me fais un point d'honneur de brandir le texte avant de commencer, parce que sur la couverture figure toujours le prix. Vous avez peut-être du mal à le distinguer du fond de la salle. C'est en effet parce que ce prix est petit. Il est tout petit, il est minuscule, il est moindre encore que celui de notre précédent texte. Vous vous rappelez peut-être que le Balzac dont il était question il y a 3 semaines coûtait 4 euros. Eh bien, Adolphe, lui, est à 3,90. C'est proprement effarant. Je ne sais pas comment on fait, ou plutôt, je suppose que Jean-Marie Roulin a procuré cette édition sur son temps de travail universitaire. C'est une édition extrêmement érudite, extrêmement précise, une édition qui procure plus de variantes que la plupart des autres éditions que j'ai consultées, qui comprend également une chronologie de Benjamin Constant, qui est illustré, qui a une bibliographie à jour et qui a une présentation d'une concision et d'une densité remarquable en une quarantaine de pages à peu près. Jean-Marie Roulin situe le texte, ouvre des avenues, les discute et rend la lecture d'autant plus passionnante que ces questions, il les aiguise sans nécessairement les verrouiller. Voilà, donc c'est vraiment... je crois d'ailleurs que Belinda Cannon partage mon avis sur le travail d'édition. Oui. C'est vraiment une édition remarquable.
Oui, oui, je tiens à le dire. Autant commencer par faire l'éloge du préfacier. C'est vraiment un grand travail d'interprétation du texte, d'information sur le texte. Enfin, c'est une des très, très bonnes préfaces qu'on peut... Enfin, c'est du grand travail universitaire, vraiment.
Voilà. Alors, comme toujours, la rencontre va s'ouvrir sur une lecture de passage choisi par Belinda Cannon, lecture à la suite de laquelle nous réagirons, comme toujours, en improvisant, comme à notre habitude. Et comme toujours, je ne sais absolument pas quel passage Belinda Cannon a pu choisir, mais j'ai ma petite idée, parce que dans cette édition, comme toujours, Belinda Cannon a offert un entretien à l'AGF pour essayer de donner le goût d'Adolphe à des lecteurs en général, à de jeunes lecteurs en particulier. Et ce n'est pas la seule fois qu'elle parle d'ailleurs d'Adolphe. Elle en a parlé dans certaines de ses œuvres. Et il est souvent question, je crois, quand vous parlez d'Adolphe, d'une certaine phrase du chapitre 3. Donc, nous allons voir si je me trompe.
Je ne sais pas si vous vous trompez, mais comme je suis une femme méthodique, j'ai prévu de commencer par le commencement et donc de faire plusieurs lectures. J'ai sélectionné des passages qui me paraissaient intéressant et qui était aussi une façon de rappeler le contenu d'Adolphe et des points. Donc les premières choses que je voudrais lire, c'est d'une part le portrait d'Adolphe tel qu'il le brosse lui-même dans le premier chapitre, ensuite celui d'Elénor qu'il va rencontrer dans le chapitre 2, et puis après on arrêtera peut-être, on reprendra,
nous verrons bien
d'autres choses. Donc dans le premier chapitre, Adolphe fait un petit portrait de lui et il évoque son père qui a eu une grande influence sur son caractère, son père qui était un grand timide. Ma contrainte avec lui eut une grande influence sur mon caractère. Aussi timide que lui, mais plus agité parce que j'étais plus jeune, je m'accoutumais à renfermer en moi-même tout ce que j'éprouvais, à ne former que des plans solitaires, à ne compter que sur moi pour leur exécution, à considérer les avis, l'intérêt, l'assistance et jusqu'à la seule présence des autres comme une gêne et comme un obstacle. Je contractais l'habitude de ne jamais parler de ce qui m'occupait, de ne me soumettre à la conversation que comme à une nécessité importune, et de l'animer alors par une plaisanterie perpétuelle qui me la rendait moins fatigante et qui m'aidait à cacher mes véritables pensées. De là une certaine absence d'abandon qu'aujourd'hui encore mes amis me reprochent, et une difficulté de causer sérieusement que j'ai toujours peine à surmonter. Il en résulta en même temps un désir ardent d'indépendance, une grande impatience des liens dont j'étais environnée, une terreur invincible d'en former de nouveaux. Je ne me trouvais à mon aise que tout seul, et tel est même à présent l'effet de cette disposition d'âme que, dans les circonstances les moins importantes, quand je dois choisir entre deux parties, la figure humaine me trouble, et mon mouvement naturel est de la fuir pour délibérer en paix. Je n'avais point cependant la profondeur d'égoïsme qu'un tel caractère paraît annoncer. Tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais faiblement à moi-même. Je portais au fond de mon cœur un besoin de sensibilité dont je ne m'apercevais pas, mais qui, ne trouvant point à se satisfaire, me détachait successivement de tous les objets qui, tour à tour, attiraient ma curiosité. Cette indifférence surtout s'était encore fortifiée par l'idée de la mort, idée qui m'avait frappée très jeune et sur laquelle je n'ai jamais conçu que les hommes s'étourdissent si facilement. Chapitre 2. Distrait, inattentif, ennuyé. Je ne m'apercevais point de l'impression que je produisais et je partageais mon temps entre des études que j'interrompais souvent, des projets que je n'exécutais pas, des plaisirs qui ne m'intéressaient guère, lorsqu'une circonstance, très frivole en apparence, produisit dans ma disposition une révolution importante. Un jeune homme avec lequel j'étais assez liée cherchait depuis quelques mois à plaire à l'une des femmes les moins insipides de la société dans laquelle nous vivions. J'étais le confident très désintéressé de son entreprise. Après de longs efforts, il parvint à se faire aimer. Et comme il ne m'avait point caché ses revers et ses peines, il se crut obligé de me communiquer ses succès. Rien n'égalait ses transports et l'excès de sa joie. Le spectacle d'un tel bonheur me fit regretter de n'en avoir pas essayé encore. Je n'avais point eu jusqu'alors de liaison de femme qui pût flatter mon amour-propre. Un nouvel avenir parut se dévoiler à mes yeux, un nouveau besoin se fit sentir au fond de mon cœur. Il y avait dans ce besoin beaucoup de vanité sans doute, mais il n'y avait pas uniquement de la vanité. Il y en avait peut-être même moins que je ne le croyais moi-même. Les sentiments de l'homme sont confus et mélangés. Ils se composent d'une multitude d'impressions variées qui échappent à l'observation. Et la parole, toujours trop grossière et trop générale, peut bien servir à les désigner, mais ne sert jamais à les définir. Tourmenté d'une émotion vague, « Je veux être aimé », me disais-je, et je regardais autour de moi. Je ne voyais personne qui m'inspirât de l'amour, personne qui me parût susceptible d'en prendre. J'interrogeais mon cœur et mes goûts, je ne me sentais aucun mouvement de préférence. Je m'agitais ainsi intérieurement lorsque je fis connaissance avec le comte de P, homme de 40 ans dont la famille était alliée à la mienne. Il me proposa de venir le voir. Malheureuse visite. Il avait chez lui sa maîtresse, une Polonaise, célèbre par sa beauté, quoiqu'elle ne fût plus de la première jeunesse. Cette femme, malgré sa situation désavantageuse, avait montré dans plusieurs occasions un caractère distingué. Sa famille, assez illustre en Pologne, avait été ruinée dans les troubles de cette contrée. Son père avait été proscrit, sa mère était allée chercher un asile en France et y avait mené sa fille, qu'elle avait laissée à sa mort, dans un isolement complet. Le comte de P en était devenu amoureux. Elénor n'avait qu'un esprit ordinaire, mais ses idées étaient justes, et ses expressions, toujours simples, étaient quelquefois frappantes par la noblesse et l'élévation de ses sentiments. Elle avait beaucoup de préjugés, mais tous ces préjugés étaient en sens inverse de son intérêt. Elle attachait le plus grand prix à la régularité de la conduite, précisément parce que la sienne n'était pas régulière suivant les notions reçues. Elle était très religieuse, parce que la religion condamnait rigoureusement son genre de vie. Elle repoussait sévèrement dans la conversation tout ce qui n'aurait paru à d'autres femmes que des plaisanteries innocentes, parce qu'elle craignait toujours qu'on ne se crût autorisé par son état à lui en adresser de déplacés. Elle aurait désiré ne recevoir chez elle que des hommes du rang le plus élevé et de mœurs irréprochables, parce que les femmes à qui elle frémissait d'être comparées se forment d'ordinaire une société mélangée et, se résignant à la perte de la considération, ne cherchent dans leurs relations que l'amusement. Elénor, en un mot, était en lutte constante avec sa destinée. Elle protestait, pour ainsi dire, par chacune de ses actions et de ses paroles, contre la classe dans laquelle elle se trouvait rangée. Et comme elle sentait que la réalité était plus forte qu'elle et que ses efforts ne changeaient rien à sa situation, elle était fort malheureuse. Elle élevait deux enfants qu'elle avait eus du comte de P avec une austérité excessive. On eût dit quelquefois qu'une révolte secrète se mêlait à l'attachement plutôt passionné que tendre qu'elle leur montrait et les lui rendait en quelque sorte importants. Cette opposition entre ses sentiments et la place qu'elle occupait dans le monde avait rendu son humeur fort inégale. Souvent, elle était rêveuse et taciturne. Quelquefois, elle parlait avec impétuosité. Comme elle était tourmentée d'une idée particulière, au milieu de la conversation la plus générale, elle ne restait jamais parfaitement calme. Mais par cela même, il y avait dans sa manière quelque chose de fougueux et d'inattendu qui la rendait plus piquante qu'elle n'aurait dû l'être naturellement. La bizarrerie de sa position suppléait en elle à la nouveauté des idées. On l'examinait avec intérêt et curiosité, comme un bel orage. Offerte à mes regards dans un moment où mon cœur avait besoin d'amour, ma vanité de succès, Elénor me parut une conquête digne de moi.
Ce qui frappe quand on vous entend lire ce texte, Belinda Cannon, qui date de 1816 et qui est donc situé, disons, pour le dire un peu vite, après l'apparition de Chateaubriand, mais bien avant celle des premiers romantiques. Ce qui frappe quand on vous entend lire ce texte, c'est d'abord l'étrange combinaison entre l'extrême clarté, précision analytique, d'une part, et le refus tout aussi absolu de parvenir à une résolution définitive de l'équation des êtres. À tout moment, on précise, on ajoute, on résout, mais il semblerait qu'on n'arrive jamais à un terme qui résoudrait la formule et qui bouclerait le portrait.
Bien sûr. D'abord parce que c'est vrai que c'est vraiment un texte, c'est un moment de transition en France, en Europe et dans la littérature aussi bien. C'est-à-dire que c'est vrai, et on l'entend chez Constant, on entend cette langue très classique qui a une économie extraordinaire et des formules, une concision qui va se perdre ensuite, qui est encore ce qui reste de la littérature, de la langue classique et de la langue du XVIIIe. Et en même temps, il y a déjà une sorte de côté vibrant qui est déjà l'annonce du romantisme. Le romantisme allemand est déjà largement, largement commencé, et Constant le connaît très bien, enfin, connaît les romantiques allemands, etc. Et on a vraiment ce sentiment de, d'un moment de transition avec, avec cette concision de la langue très belle et très, qui va disparaître, et cette fougue et cette impétuosité classique, romantique. Pardon.
On a l'impression d'ailleurs que même au-delà du 18e, en amont du 18e, Constant remonte en fait, ou son narrateur remonte tout naturellement jusqu'au 17e, jusqu'au grand siècle. On a l'impression d'entendre comme des, plus que des réminiscences de la Bruyère, par exemple.
D'abord par la forme, parce qu'en effet, Adolphe, c'est, on pourrait dire, le deuxième grand roman d'analyse. Le premier roman d'analyse, La princesse de Clèves, c'est donc vraiment le 17e, et tout à coup, là, on a à nouveau un roman d'analyse qui est celui de Constant. Et puis je dirais aussi qu'il y a une visée morale chez Constant qu'il a développée et dont il a souvent parlé, qui le rapproche aussi des moralistes du XVIIe.
Oui, mais jusque dans la forme, il y a effectivement des sentences qui ont une frappe particulière et qui sont énoncées au présent. Je pense par exemple à ce passage que vous avez lu du premier chapitre, où le narrateur paraît généraliser tout naturellement. C'est le passage que vous avez lu concernant la définition des êtres, justement. Où est-ce que ça se trouve, ça? C'est dans le chapitre 1, dans le chapitre 2. Oui, c'est le chapitre 2, c'est le chapitre 2, voilà. À propos de la proportion exacte de vanité qu'il y aurait à déterminer dans son besoin d'être aimé, il y avait dans ce besoin beaucoup de vanité sans doute, mais il n'y avait pas uniquement de la vanité. La vanité, il parlera d'amour propre, et là on est vraiment chez les moralistes classiques. Les sentiments de l'homme sont confus et mélangés. Voilà, on est parti dans la généralité, dans la sentence éternelle. Il se compose d'une multitude d'impressions variées qui échappent à l'observation, et la parole, toujours trop grossière et trop générale, peut bien servir à les désigner, mais ne sert jamais à les définir. C'était ma première réaction. Effectivement, on a une langue extrêmement classique, mais cette langue extrêmement classique sert justement à délimiter avec la plus grande précision quelque chose dont par ailleurs on affirme le caractère insaisissable et évanescent.
Bien sûr, c'est un des grands thèmes de ce roman. Constant ne cesse à la fois d'essayer dans tout le roman d'entrer dans la plus grande précision concernant ce sentiment amoureux dont on parlera tout à l'heure, dont il donne toute l'ambiguïté, les ambivalences, etc. Et ce faisant, et faisant cet effort pour décrire le sentiment amoureux, en même temps, il ne cesse de dénoncer le fait que la langue échappe, que la langue ne parvient pas exactement à être assez précise. Il dit, elle sert à désigner, mais pas à définir, hein, dans un des extraits que j'ai lus. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est qu'on peut bien désigner les choses, mais il reste la possibilité d'un grand malentendu sur la véritable signification. Et toute la relation d'Adolphe avec Elénor va être constamment une manière aussi de... Enfin, la narration qu'en fera Adolphe dans son roman va être une manière de montrer que leur problème aura aussi été une question de mots qui auront été faux pour plusieurs raisons, pour diverses raisons.
Mais à ce propos, d'ailleurs... Bon, vous avez commencé par le premier chapitre où le narrateur, Adolphe, parle de lui-même, propose un autoportrait. Vous êtes ensuite passé au portrait d'Elénor, sur lequel on pourrait revenir, parce que c'est vraiment il est vraiment remarquable. Bon, en parenthèse, c'est une autre des choses qui m'avait frappé, c'est l'absence quasi absolue de toute notation d'ordre physique, tout simplement.
Oui.
La seule notation un peu physique qu'on ait, c'est une indication sur leur âge relatif. Et encore, sur leur âge relatif, c'est tout. Ouais. Elénor est belle, mais elle n'est plus de la première jeunesse, ce qui semble impliquer...
C'est une vieillarde, elle a à peu près 30 ans.
Oui, c'est un prototype de la femme de 30 ans balsacienne, oui, effectivement, sûr. mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Adolphe ne s'apesantit pas sur son caractère physique. On ne peut pas visualiser Eleanor.
C'est un parti pris tout à fait
très classique, oui.
Et très volontaire chez Constant. Il veut analyser le sentiment et donc il ne se perd pas dans les détails. J'ai lu ces éléments de description des personnages qu'il donne, des deux personnages, mais ce sera tout en effet. Ensuite, la seule chose qui va être analysée constamment, c'est le lien entre eux, ce lien amoureux, douloureux, etc., évoluant un peu d'ailleurs, mais au fond ça ne l'intéresse pas de dire ce que font les personnages, d'où ils viennent, etc. Ce que j'ai dit là, c'est tout ce que l'on saura d'eux, et ça suffit, parce que ça n'est pas ça l'objet, c'est le sentiment amoureux.
Et c'est tout sauf sec d'ailleurs, on pourrait avoir l'impression que ce classicisme et ce refus de l'image procèdent d'une certaine sécheresse, mais en fait, vous l'avez dit, il y a une vibration là-dedans. Par exemple, en vous entendant lire, il est frappant quand on lit Adolphe qu'il n'y a quasiment pas de notation de paysage non plus. Presque pas. Les quelques endroits où ça se situe sont très significatifs et prennent d'autant plus de relief. Ouais. Mais là, par exemple, on a eu fugitivement une notation atmosphérique, mais elle est dans une comparaison. C'est Eleanor qui est comparée à un bel orage.
Ouais.
C'est tout. C'est superbe, cette façon de ramener ce qui aurait pu servir d'élément de tableau, de paysage, de le concentrer uniquement et fugitivement sur la description, sur ce qui tient lieu de la description du personnage. Ça, c'est vraiment d'une économie de moyens absolument admirable.
Ce qui est aussi, à mon sens, très intéressant, c'est pour ça que je voulais lire absolument ce passage, c'est donc le portrait d'Eleanor. Parce que ce pourrait être un portrait... Elle était belle, certes, un peu vieille, ça doit expliquer des choses, puisqu'elle a 10 ans plus que lui... Ça doit expliquer aussi les impossibilités de leur amour. Mais ce qui est très intéressant et très puissant et qui est à mon avis un des grands sens du roman, c'est que Eleanor dit dans un langage contemporain, je dirais qu'Eleanor est une femme aliénée. Et il ne le dissimule pas puisqu'il dit tout de suite qu'elle était pleine de préjugés. Qu'elle avait un esprit assez ordinaire, que son comportement et sa difficulté à être dans le monde lui donnaient une espèce de fougue et un côté inattendu qui fait son charme, mais son esprit est un esprit assez ordinaire, et c'est une femme, comme il est dit, qui a absolument intégré toutes les normes sociales et qui les pratique, qui les soutient, alors que toutes ces normes vont contre son intérêt. Et ça, c'est très intéressant. À mon avis, c'est aussi une grande puissance de ce roman qui dit quelque chose qui nous concerne. C'est-à-dire que c'est un roman dans lequel il y a deux personnages, hein, on le sait, il y a deux personnages et une situation qui se répète constamment, qui est toujours la même, dit Benjamin Constant, ce qui, d'ailleurs, nous rappelle aussi, pour revenir au XVIIe, nous rappelle Racine et la préface de Bérénice.
Oui.
Hein, où Racine dit toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien. Et c'est ce qu'a voulu faire Constant, c'est-à-dire qu'il a pris deux personnages et une situation toujours la même. Et la société autour d'eux est réduite à quelques silhouettes. Donc on pourrait se dire, finalement, l'amour, ça va se jouer entre ces deux personnages et la société n'interférera jamais. Et c'est là qu'il y a cette chose intéressante et puissante pour nous aujourd'hui, c'est que la société existe, mais d'une façon entièrement intériorisée. Eleanor est la société. Elle porte toutes les valeurs de la société et elle les incarne jusqu'au bout. Et ça, c'est une des grandes forces, je crois, du roman, c'est d'avoir montré que la société, ça n'est pas, comme au XIXe, on l'a beaucoup dit, ça n'est pas cette chose oppressante qui contraint l'individu qui se voudrait libre et qui aurait ses choix et la société viendrait combattre ses choix. Non, la société, c'est quelque chose qui est intériorisé par les individus. Et c'est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'il y a ce combat entre leurs désirs entre leurs désirs et le monde qui les entoure. Et que je sache, cette façon-là d'avoir intériorisé la société a rarement été peinte d'une façon aussi fine et qui, je crois, est toujours vraie. C'est-à-dire que la société, nous la portons en nous. Elle n'est pas à l'extérieur de nous et contre nous. Elle est ce qui nous meut et ce qui nous entrave éventuellement. Elénore est une femme entravée.
Est-ce qu'Adolphe est aussi un personnage entravé par la norme sociale, finalement, lui aussi? Après, vous avez choisi d'ouvrir votre lecture sur un portrait d'Adolphe qui s'enracine dans le portrait du père.
Ça, bien sûr. Disons que pour Adolphe, le roman met en scène plusieurs personnages qui bornent sa liberté. Son père, ensuite un représentant de son père à la fin du roman. Donc on a l'impression qu'Adolphe, de toute façon, est contraint par des gens qui sont actifs autour de lui. Dans la tradition du 19e, on voit souvent le héros étant obligé de s'opposer à la société en tant qu'elle est représentée par des personnes ou des institutions. Mais bien sûr, d'ailleurs, quand Adolphe revient sur son histoire, il parle de ça, du fait que la société est si forte en nous qu'elle nous modèle et que nous ne pouvons pas lui échapper. Nous sommes faits dans ce moule et il ne s'exempte pas de cette pression.
Il y a une satire d'Horace, que je ne vais pas citer en latin, j'en serais bien incapable d'ailleurs, une satire d'Horace où il compare l'angoisse à un cavalier qui saute en selle derrière vous. Et on a beau chercher à échapper à son angoisse, on a beau essayer de voyager au loin, on a beau cravacher sa monture pour qu'elle presse son galop, on n'échappe pas à l'angoisse qui est montée derrière vous et qui vous en serre. Autrement dit, le voyage ne résout pas ce qu'on transporte en soi. Or, Adolphe est un grand voyageur, c'est un personnage qui ne tient pas en place d'une certaine façon et qui pourtant, paradoxalement, donne le sentiment d'être toujours enfermé dans une même sphère. En relisant le roman, avant de vous rencontrer, Belinda Cannon, il m'avait semblé qu'effectivement, cette sphère, elle était très nettement, comment dire, verrouillé du côté de la loi paternelle, justement. Le personnage est libre d'aller comme on lui semble, libre d'aller à sa guise, libre de ne pas se choisir une carrière tout de suite, libre de ne pas s'engager, libre de ne pas se marier, libre de vivre une affaire, une histoire d'amour que socialement tout le monde qualifie d'absurde, mais sans intervenir. Donc il est dans cette liberté. Et en même temps, cette liberté qui lui permet de parcourir toute l'Europe, d'aller jusqu'en Pologne, aux côtés de la femme qu'il aime ou qu'il croit aimer, d'Elénore, cette liberté-là, au fond, est toujours une liberté confinée dans une espèce de loi du père à laquelle, de toute façon, on n'échappe pas. Est-ce que vous avez eu cette...
Oui, c'est tout à fait vrai. Parce que le père d'Adolphe est un ceci de terrible, qu'à la fois il attend de son fils qu'il réussisse, qu'il a fini ses études et qu'il fasse quelque chose, qu'il entre dans l'administration, ce qui, par parenthèse, n'est peut-être pas très amusant aussi pour Adolphe. C'est une société où il y a finalement peu d'ouverture possible, peu d'invention possible de sa propre existence. Tout ce qui est offert à Adolphe, c'est d'entrer dans une administration, d'entrer dans un décor d'État. Bon.
De succéder à son père.
N'empêche que son père le laisse toujours libre, et le laisse terriblement libre. Et un des pires moments pour Adolphe, d'ailleurs, c'est lorsque Adolphe, je crois, décide de partir de la petite ville où ils étaient et d'aller en Pologne, et son père lui dit, je peux vous lire le passage si je le retrouve, son père lui dit « vas-y », mais la culpabilité est encore plus terrible. Oui, c'est une des rares lettres du père, le père, on le voit rarement, mais il écrit quelquefois. Voilà ce qu'il lui dit, c'est le chapitre 6. « Vous avez 24 ans, me répondit-il. Je n'exercerai pas contre vous une autorité qui touche à son terme et dont je n'ai jamais fait usage. » Je cacherai même autant que je le pourrai votre étrange démarche. Je répandrai le bruit que vous êtes parti par mes ordres et pour mes affaires. Je subviendrai libéralement à vos dépenses. Vous sentirez vous-même bientôt que la vie que vous menez n'est pas celle qui vous convenait. Votre naissance, vos talents, votre fortune vous assignaient dans le monde une autre place que celle de compagnon d'une femme sans patrie et sans aveu. Votre lettre me prouve déjà que vous n'êtes pas content de vous. Songez que l'on ne gagne rien à prolonger une situation dont on rougit. Vous consumez inutilement les plus belles années de votre jeunesse et cette perte est irréparable. C'est terrible comme situation. C'est-à-dire qu'il lui dit à la fois, je te donne, je te couvre, tu pars, je dirais que tu pars parce que je t'ai demandé, je te donnerai de quoi subvenir à tes besoins, etc. Donc tu es un père très libéral, mais tu sais bien toi-même que ce que tu fais, c'est mal. Et donc ça, c'est une façon terrible pour Adolphe d'être libre, en effet, de rater sa vie, lui dit son père.
Mais à propos de père, est-ce que, en vous lisant, là, pour le coup, ça me fait penser à Kafka. Ce n'est pas la lettre au père, c'est la lettre du père, mais on a vraiment le sentiment, c'est l'injonction paternelle n'est même pas contradictoire, elle est pire. Tu es coupable, tu es condamné, tu as déjà échoué, mais je te laisse libre.
Oui, là, il lui dit quand même qu'il pourrait se rattraper.
Il pourrait se rattraper, mais il y a un usage des temps qui est assez terrifiant. Vous sentirez, futur, vous sentirez vous-même bientôt que la vie que vous menez présent n'est pas celle qui vous convenait. Imparfait. C'est comme si, effectivement, il est toujours temps de changer. Ce n'est pas parce qu'on a perdu du temps qu'on doit continuer à le perdre, mais on a le sentiment que presque grammaticalement, en quelque sorte, le mort saisit le vif et que le passé d'Adolphe est déjà en train de... Enfin, la jeunesse perdue est déjà en train de fissurer et de ronger tout avenir possible. Non ?
Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, son père ne cesse d'essayer, c'est peut-être la grande différence quand même avec le père de Kafka, ne cesse d'essayer de l'inviter à se remettre sur le bon chemin. Et il l'aide dans ce sens. Donc, bien sûr, c'est très culpabilisant. La position du père d'Adolphe est très culpabilisante, mais en même temps, c'est pas cette loi incompréhensible qui tombe sur le. Il sait très bien pourquoi son père lui en veut. Il pense lui-même qu'il est en train de commettre des erreurs. Justement, je voudrais en revenir à la société et précisément et à son influence sur les êtres. Qui est sans doute bien plus forte que... j'avais envie de lire autre chose d'abord. Je peux, n'est-ce pas ?
Ah ben bien sûr, ben nous sommes là pour ça. Entre parenthèses, cette lettre du père, Jean-Marie Roulin, l'éditeur, fait remarquer dans son introduction que c'est l'un des très très rares passages où des paroles sont rapportées entre guillemets. Où des paroles au style direct sont rapportées entre guillemets. Il y en a beaucoup de telles paroles dans le roman, mais elles sont rapportées sans guillemets. Elles sont simplement séparées du corps de la phrase par des virgules, ce qui fait que parfois on peut se demander où la parole rapportée cesse et où la parole du narrateur ou du romancier reprend. Il y a une sorte de, non pas de confusion des voix, mais de tissage des voix qui rend la frontière justement entre la voix propre et la voix de l'autre ou la voix sociale, parfois très très difficile à distinguer. Et Jean-Marie Roulin, à ma connaissance, est le premier éditeur à mettre le doigt aussi explicitement sur ce point-là, qui est effectivement, quand on lit ça dans son édition, un effet de texte tout à fait remarquable. Dans les éditions précédentes, les éditeurs avaient tendance à surponctuer, à rajouter des guillemets qui sont absents des éditions imprimé du vivant de Constant lui-même. C'est remarquable. Et du coup, les paroles, entre guillemets, prennent une consistance, une solidité, un relief tout particulier. Ce sont vraiment des paroles qui tranchent. Voilà. Je disais ça en parenthèse, le temps pour Belinda Cannon de retrouver le passage suivant.
De le lire d'une façon plus brève. Donc, vous vous souvenez peut-être, à un moment donné, Elénor va de sacrifice en sacrifice. C'est-à-dire que Adolphe la tente de la séduire, s'exalte dans cet amour qui lui paraît une chose très nécessaire, la séduit. Je ne crois pas que j'aurai le temps de vous lire les passages que j'avais sélectionnés. Et donc, premier sacrifice, si je puis dire, Elénor abandonne son honneur, comme on disait, à ce beau jeune homme qui se dit éperdu d'amour pour elle. Premier sacrifice. Deuxième, ce n'est pas son mari, justement, le comte de P va finir par s'en apercevoir, bien sûr, Et finalement, Elénor décide, deuxième immense sacrifice, d'abandonner le comte. Abandonner le comte, ça veut dire perdre sa réputation, cette réputation qu'elle a mis tant, elle a consacré tant d'efforts à la bâtir, à la tenir, hein, c'est des passages que j'ai lus. Eh bien, tout à coup, elle balaye tout cela, elle part pour ce jeune homme, elle va vivre seule, donc elle renonce à sa position sociale, elle renonce à ses enfants, ce qui n'est pas rien, donc au sacrifice énorme aussi, et elle est perdue de réputation. Donc, à ce point-là du texte, elle a décidé de prendre un appartement, d'aller vivre avec ce qu'elle a de fortune, pas grand-chose, et d'y vivre. Et voilà ce que dit le début du chapitre 5. La séparation d'Elénor et du comte de P produisit dans le public un effet qu'il n'était pas difficile de prévoir. Elénor perdit en un instant le fruit de 10 années de dévouement et de constance. On la confondit avec toutes les femmes de sa classe qui se livrent sans scrupule à 1000 inclinations successives. L'abandon de ses enfants la fit regarder comme une mère dénaturée. Et les femmes d'une réputation irréprochable répétèrent avec satisfaction que l'oubli de la vertu la plus essentielle à leur sexe s'étendait bientôt sur toutes les autres. Je passe un peu. Il continue d'évoquer tous ces reproches et cette opprobre qui s'est abattue sur elle, et il dit, ensuite narrateur de cette histoire, « Je suis convaincue que, si j'avais eu de l'amour pour Elénor, j'aurais ramené l'opinion sur elle et sur moi. Telle est la force d'un sentiment vrai que, lorsqu'il parle, les interprétations fausses et les convenances factices se taisent. Mais je n'étais qu'un homme faible, reconnaissant et dominé. Je n'étais soutenue par aucune impulsion qui partit du cœur. » C'est très intéressant de dire que, de peindre le sentiment amoureux qui serait en but à toute la société qui le condamnerait. Et ça, c'est un passage extraordinaire. Il dit que s'il avait vraiment eu un sentiment vrai et fort pour elle, les gens, la société, seraient revenus et l'auraient accepté. Et donc, la force d'un sentiment vrai est plus grande que la pression sociale. Donc là, encore une fois, on voit que il y a vraiment une analyse extraordinairement fine et nuancée de la société qui n'est pas le grand ennemi, comme elle sera souvent présentée au 19e. On n'a pas parlé de sentiments encore.
Non, on n'a pas parlé de sentiments, c'est à peine si nous parvenons à parler d'Adolphe, parce que plus nous en parlons, plus ce personnage s'enfuit à travers son propre texte. Déjà tout à l'heure, quand vous lisiez son portrait initial, c'est comme si ce portrait commençait par placer tout de suite ce qu'on pourrait appeler un point de fuite. D'ailleurs, vous avez très légèrement marqué dans votre lecture cette phrase qui était tout à fait frappante, « Tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais faiblement à moi-même. » Alors déjà là, il y a une distinction qui... Ben évidemment, je vous demanderai de revenir dessus, parce que pour moi, c'est assez vertigineux. Et par ailleurs, je constate que vous avez parlé à l'instant d'Adolphe, vous l'avez cité, « Je n'étais qu'un homme faible, reconnaissant et dominé. » Et là, il est question d'un intérêt faible pour soi-même. Donc, qu'est-ce que c'est que cette faiblesse?
Alors, je vous pose la question, on peut la poser tous. Moi, ce que je comprends cette phrase de la façon suivante, c'est-à-dire que d'un côté, il ne s'intéresse qu'à lui, donc pas tant que ça à autrui. Mais d'un autre côté, tout en ne s'intéressant qu'à lui-même, il lui manque cette présence à soi qui lui permettrait de savoir exactement où il en est. Il est le jouet de lui-même. Il n'est pas assez présent à lui-même pour pouvoir s'analyser et se conduire d'une façon qui le mettrait. Vous voyez, par exemple, dans l'extrait que j'ai lu de ça tout à l'heure, il disait qu'il voulait avoir une femme par vanité, mais peut-être pas tant que ça, mais peut-être que quand même... il dit que peut-être finalement la vanité n'était pas si importante dans sa démarche. rétrospectivement, il essaye de s'analyser, il arrive à dire des choses aussi sophistiquées. Mais dans le présent de la relation, il sera constamment dominé. Dominé par elle, et au fond, dominé par sa faiblesse. Il ne s'intéressait que faiblement à lui-même. Moi, je l'entends comme manque de réflexivité, manque de présence à lui-même et de réflexivité.
Est-ce que vous n'entendez pas aussi, Melinda Cannon, une sorte de clivage intérieur, une coupure, effectivement, entre moi et moi-même, où moi serait, comment dire, peut-être le rôle que l'on peut considérer consciemment comme on se regarde dans une glace, et un moi-même qui serait davantage de l'ordre soit du cœur, pour parler de le langage du personnage, soit de l'inconscient, pour être plus moderne, peut-être. Et là, je vous demanderai votre réaction plutôt comme lectrice, puisqu'on en parlait tout à l'heure, comme auteur, comme écrivain. Vous disiez tout à l'heure, étant écrivain, pratiquant moi-même la fiction, je n'entre pas dans un texte tout à fait de la même façon dont y entrent des collègues, des enseignants, des professeurs. Et j'avais eu envie de vous interroger là-dessus. Qu'est-ce qui ferait la différence d'accroche pour vous, lectrice, en tant que lectrice pratiquant la fiction, sur un texte comme Adolphe?
Je ne sais pas pourquoi réduire à Adolphe. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est soi-même écrivain, on est constamment affronté à cette patte qu'on essaye de mettre en forme. Et ça nous donne une espèce d'intelligence presque technique du texte qui fait que quand on lit un auteur, quel qu'il soit, souvent, quand ça nous plaît, quand ça nous parle, on a l'impression de le voir faire. J'ai l'impression de le voir à sa table. J'ai l'impression de pouvoir entrer dans sa pensée, de le voir en train d'œuvrer. Et il me semble que cela, cette capacité, cette illusion peut-être, de voir l'auteur au travail, de voir comment il a pensé. Je me dis, ah oui, voilà ce qu'il a voulu faire, voilà comment il l'a fait, voilà à quoi il a pensé. J'ai l'impression d'entrer dans le secret de sa fabrique, peut-être un peu plus que si j'étais simple lectrice. Parce que moi-même, je sais bien quel genre de problème je rencontre en écrivant. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Mais quand même, cette impression d'entrer dans la fabrique vient de la pratique que je peux avoir de l'écriture.
Et donc dans la fabrique de Constant, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous senti?
Alors là, je ne sais pas si c'est en tant qu'écrivain que je l'ai senti, mais ce que je trouve extraordinaire dans le roman et qui m'émerveille et qui reste à mon avis, qui fait la force d'Adolphe encore aujourd'hui, c'est cette manière d'avoir essayé d'entrer dans l'ambiguïté des sentiments, dans l'ambivalence des sentiments, si loin qu'aujourd'hui encore, bien malin celui qui pourrait conclure quelque chose à propos d'Adolphe, aussi bien d'Adolphe que d'Elénore, des personnages, bien malin celui qui pourrait dire s'il aimait Elénore ou pas, par exemple. Et ça, avoir tenu le roman jusqu'au bout, sans qu'on sache vraiment quel est son sentiment pour elle, c'est un fameux tour de force. Et pourquoi il a réussi ça? Parce qu'il a essayé de décrire à chaque étape du sentiment des tas de choses parasites. Je voulais vous donner un exemple parce que je le dis mal. J'avais noté quelque chose où... Je sais pas, par exemple, enfin j'en ai des tas d'exemples, mais voilà, un petit passage à propos d'Elénore, dit cette chose-là. Elénore, c'est vraiment l'image de l'amour sacrificiel, absolu, du grand amour, etc. Et voilà ce qu'il dit d'elle, page 89, c'est le chapitre 4. Après nos querelles les plus vives, elle était aussi empressée à me revoir, elle fixait aussi soigneusement l'heure de nos entrevues, que si notre union eût été la plus paisible et la plus tendre. Et là, j'ai souvent pensé que ma conduite même contribuait à entretenir Elénore dans cette disposition. Si je l'avais aimée comme elle m'aimait, elle aurait eu plus de calme. Elle aurait réfléchi de son côté sur les dangers qu'elle bravait. mais toute prudence lui était odieuse parce que la prudence venait de moi. Elle ne calculait point ses sacrifices parce qu'elle était tout occupée à me les faire accepter. Elle n'avait pas le temps de se refroidir à mon égard parce que tout son temps et toutes ses forces étaient employées à me conserver. Et vous voyez, voilà, ce genre d'incroyable pénétration dans l'esprit de celle qui est censée être la grande amoureuse, eh bien, il montre comment elle ne calcule pas ses sacrifices, comment elle passe son temps à essayer de le conserver. Bref, comment finalement, même chez elle, cet amour, ce grand amour, ça n'est pas une chose si simple. C'est-à-dire qu'il a constamment essayé de décrire l'amour qu'on a tendance à prendre comme un fait. On aime ou on n'aime pas. Eh bien, Benjamin Constant ne cesse d'essayer de montrer tout ce qui vient nourrir, gauchir, bouleverser, modifier l'amour. Je lis ce passage, au fond, je suis bien contente de vous avoir lu celui-là, parce que, a priori, on a l'impression qu'Elénore est vraiment tout d'un bloc. C'est vraiment la femme qui va tout donner, c'est la grande amoureuse. Ben voilà, la grande amoureuse, si on l'avait peut-être un peu moins frustrée, s'il avait été autrement avec elle, elle-même se serait conduite autrement. Et qui sait si elle ne l'aurait pas aimé autrement? Et qui sait si elle n'aurait pas un peu moins aimé, par exemple, s'il l'avait vraiment aimé? Et vous voyez, à toutes les pages, enfin, à des tas d'étapes du roman, on a ce genre de gouffre, de petit gouffre, de petit vertige plutôt, qui s'ouvre derrière les évocations du sentiment amoureux et la complexité du sentiment amoureux. Je connais peu de romans, aujourd'hui encore, qui arrivent à ce point à entrer dans les minuties du sentiment amoureux et ses vertiges.
C'est vrai que on tombe constamment sur des expressions qui sont vertigineuses. Moi, j'avais noté au chapitre 2, par exemple, un moment où le héros est bouleversé, parce qu'il ne faudrait pas non plus imaginer qu'il est froid, qu'il joue un rôle, qu'il a profité d'une bonne fortune et qu'il s'est retrouvé coincé dans cette histoire qui, au fond, l'ennuie. Il a aussi sa part de passion, mais justement, cette part de passion est constamment en interférence avec autre chose. Donc, il reçoit une réponse d'Elénore. Cette réponse me bouleversa. Mon imagination, s'irritant de l'obstacle, s'empara de toute mon existence. L'amour qu'une heure auparavant je m'applaudissais de feindre, je crus tout à coup l'éprouver avec ferveur. Je crus tout à coup l'éprouver avec ferveur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un amour qu'on croit éprouver ? Quelle distinction peut-on faire entre l'amour qu'on éprouve et l'amour qu'on croit éprouver ? Si on croit éprouver l'amour, est-ce qu'on ne l'éprouve pas ?
Mais oui, exactement.
Voilà.
Exactement. Est-ce que l'amour, ce ne sont pas les mots de l'amour ?
Voilà. Et donc là, tout d'un coup, il y a, avec cette irruption d'imagination, il n'y a plus de distinction à faire, ou pas d'autre distinction que dans l'expression, entre ce qu'on éprouve et l'impression de ce qu'on éprouve. C'est assez vertigineux, en effet. Et du coup, en effet, le roman, qui semble, je décrivais cette sphère au début, qui semble tellement verrouillée, tellement fermée, et vous l'avez dit d'ailleurs, Bélinda Cannon, répétitif, puisque d'une certaine façon, c'est une spirale qui rebloque toujours sur le même mécanisme. Malgré cette mécanique qui paraît implacable, il reste, vous l'avez dit, ouvert.
Non ? Mais oui, parce qu'on ne peut pas conclure. Moi, je crois que si on est sincère, je veux dire, si on le lit sans a priori, on ne peut pas conclure. On ne peut rien conclure des fautes ou de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, Adolphe, qui paraît être un personnage très antipathique, enfin, on peut dans une lecture rapide lui en vouloir, mais vraiment, Constant a construit tout un, comment dire, une machine rhétorique qui fait que l'ambiguïté demeurera jusqu'au bout. Et par exemple, Elénore donc finit par mourir, c'est son ultime sacrifice, hein, après avoir sacrifié sa réputation, sa fortune, ses enfants, après avoir renoncé à l'argent que lui proposait le comte pourvu qu'elle quitte Adolphe, après avoir renoncé à aller voir son père si bien qu'il meure avant qu'elle arrive. Donc elle aura tout sacrifié et, ultime sacrifice, elle sacrifiera sa vie. Hein, sa dernière lettre, c'est adressée à Adolphe. C'est voilà, elle te gênait, cette chère Elénore te gênait, eh bien elle va mourir, tu seras débarrassé d'elle. Donc le dernier sacrifice, c'est encore le sacrifice de sa vie. À quoi d'ailleurs on peut rajouter, on peut en ajouter un ultime si l'on veut, c'est qu'elle ne voulait pas qu'il lise cette lettre. Donc elle sacrifie son sacrifice, elle sacrifie la publicité sur son sacrifice. Mais bref, donc Eleanor aura sacrifié constamment et jusqu'au bout tout ce qu'elle pouvait pour lui. N'empêche que cet Adolphe odieux, le texte commence par une fameuse préface de l'éditeur, hein, selon la mode, enfin selon une pratique qui est ancienne déjà dans les romans du XVIIIe, un avis de l'éditeur qui met en scène Adolphe, sans qu'on sache encore que c'est Adolphe, quoi qu'on pourra évidemment le deviner. Et comment est Adolphe dans cet avis de l'éditeur? C'est un homme qui cherche à mourir, qui erre, qui est une espèce d'étranger, qui erre, il le trouve en Calabre, il le rencontre en Calabre, Adolphe, celui qui se révélera être Adolphe, est malade, et ne veut pas de médecin, il veut mourir. Adolphe est un homme qui veut mourir. Et donc il est aussi ravagé par cet amour perdu qu'Elénor, quasiment. Et voilà. Et donc Benjamin Constant a entouré le texte d'avis de l'éditeur, de lettres, etc. à la fin, qui ne peuvent pas nous laisser penser, en tout cas, qu'Adolphe est un homme cruel ou indifférent, sûrement pas. Et en tout cas, ça lui aura coûté autant qu'à Elénor cette liaison, cet amour manqué.
Cet avis de l'éditeur est d'autant plus intéressant que justement il contient l'un des très rares moments, l'un des très rares passages où l'on a une notation de paysage. On est en Calabre, effectivement, l'éditeur rencontre l'inconnu dans une auberge où tous les deux sont bloqués par l'impossibilité où ils sont de franchir un torrent en crue, si je me souviens bien. Autrement dit, on a d'entrée de jeu la mise en scène d'une rupture de la communication normale. Voilà, on ne franchit pas les obstacles, on ne parvient pas à communiquer, on ne parvient pas à passer de l'autre côté. Et c'est dans ce blocage que l'on fait la connaissance de cet anonyme qui, effectivement, s'avérera être Adolphe. L'éditeur raconte comment le manuscrit est parvenu entre ses mains. C'est la vieille fiction du « ceci est un document vrai ». C'est effectivement très à la mode au XVIIIe. Déjà, la nouvelle Héloïse, qui est un des modèles de Constant, est construite sur cette fiction-là. Et l'éditeur raconte qu'on a trouvé le manuscrit quelque temps après le franchissement du torrent qui s'est calmé, qu'on l'a trouvé quelque part sous la grande route, et on n'a plus de traces de l'homme qui transportait ses papiers avec lui. Et on n'en aura plus de traces. Alors, qu'est devenu Adolphe? Là encore, ce sera ouvert. Il s'est dissous dans le paysage en laissant des papiers derrière lui. S'est-il suicidé? On ne sait pas, mais il aura disparu. Et si je me souviens bien, vous avez parlé de cette lettre d'Elénor. Il disparaît dans son propre texte, d'ailleurs. Parce que cette lettre d'Elénor est très intéressante, justement, je trouve.
Dans quel sens il disparaît dans son propre
texte? C'est-à-dire qu'à l'extrême fin du manuscrit d'Adolphe,
il lui laisse la parole,
ou elle l'apprend.
C'est elle, en tout cas, qui conclut le texte.
Est-ce que c'était un passage que vous aviez retenu?
Oui. Ah bah oui, parce que évidemment, j'en avais retenu bien d'autres, mais je m'aperçois qu'une heure, c'est rien.
Pour un texte comme ça.
On a à peine commencé à en parler. Mais bon, en tout cas, en effet, le texte se termine. Donc finalement, elle mourra de douleur aussi, parce qu'elle a découvert, elle a enfin une preuve qu'Adolphe voulait la quitter. Il a essayé, il a plusieurs fois voulu la quitter, mais il n'en a jamais osé aller jusqu'au bout. Et puis il se trouve que cette fois, il s'en est ouvert à ce baron qui est un ami de son père. Il s'est ouvert de son intention enfin de la quitter, puisque maintenant elle est en Pologne, elle a retrouvé sa fortune, son château. Après tout, elle n'a plus, non seulement elle n'a plus besoin de lui, mais même on fait remarquer à Adolphe que c'est lui qui est en position d'être un homme entretenu quasiment, ce qui est terriblement honteux. Et donc, il a dit au baron qu'il allait la quitter, et le baron, habile, l'a fait savoir à Elénor. Donc, elle a la preuve qu'il veut la quitter cette fois, et cela la rend immédiatement malade, au point qu'elle en mourra. Et elle avait écrit une lettre où elle annonçait déjà cela, et puis elle a interdit à Adolphe de le lire, mais il la lira quand même. Et ce sont les derniers mots du texte enfin pas tout, dernier mot de l'anecdote, comme il la nomme, parce qu'après il y a encore deux lettres d'éditeur derrière.
Hein, okay, mais ce sont les
textes. Est vraiment
le dernier texte attribué à Adolphe, en fait.
Voilà. Et donc je vous la lis, elle est assez belle. Même si je ne voudrais pas qu'on reste sur cette image d'Elénore comme super amoureuse, mais bon, ce serait trop simple, justement. Adolphe, me disait-elle, pourquoi vous acharnez-vous sur moi? Quel est mon crime? De vous aimer? De ne pouvoir exister sans vous? Par quelle pitié bizarre n'osez-vous rompre un lien qui vous pèse et déchirez-vous l'être malheureux près de qui votre pitié vous retient? Pourquoi me refusez-vous le triste plaisir de vous croire au moins généreux? Pourquoi vous montrez-vous furieux et faible? L'idée de ma douleur vous poursuit et le spectacle de cette douleur ne peut vous arrêter. Qu'exigez-vous? Que je vous quitte? Ne voyez-vous pas que je n'en ai pas la force? Ah, c'est à vous qui n'aimez pas, c'est à vous à la trouver, cette force, dans ce cœur lassé de moi, que tant d'amour ne saurait désarmer. Vous ne me la donnerez pas, vous me ferez languir dans les larmes, vous me ferez mourir à vos pieds. Dites un mot, écrivait-elle ailleurs. Est-il un pays où je ne vous suive? Est-il une retraite où je ne me cache pour vivre auprès de vous, sans être un fardeau dans votre vie? Mais non, vous ne le voulez pas. Tous les projets que je propose, timides et tremblantes, car vous m'avez glacée d'effroi, vous les repoussez avec impatience. Ce que j'obtiens de mieux, c'est votre silence. Tant de dureté ne convient pas à votre caractère. Vous êtes bon, vos actions sont nobles et dévouées. Mais quelles actions effaceraient vos paroles? Ces paroles acérées retentissent autour de moi. Je les entends la nuit. Elles me suivent, elles me dévorent, elles flétrissent tout ce que vous faites. Faut-il donc que je meure, Adolphe? Eh bien, vous serez content. Elle mourra, cette pauvre créature que vous avez protégée, mais que vous frappez à coups redoublés. Elle mourra, cette importune Elénore que vous ne pouvez supporter autour de vous, que vous regardez comme un obstacle, pour qui vous ne trouvez pas sur la terre une place qui ne vous fatigue. Elle mourra. Vous marcherez seul au milieu de cette foule à laquelle vous êtes impatient de vous mêler. Vous les connaîtrez, ces hommes que vous remerciez aujourd'hui d'être indifférents. Et peut-être, un jour, froissé par ces cœurs arides, vous regretterez ce cœur dont vous disposiez, qui vivait de votre affection, qui eût bravé mille périls pour votre défense, et que vous ne daignez plus récompenser d'un regard.
Et ce sont les derniers mots du manuscrit du héros. Ce sont non pas les derniers mots du livre, du roman, puisqu'effectivement, ce texte-là est suivi de deux lettres, d'un échange de lettres entre l'éditeur et un interlocuteur, sur l'interprétation précisément à donner au texte, et la morale à tirer de l'anecdote. Mais ce sont...
On peut tirer, d'ailleurs. Les deux lettres, justement, dissolvent toute possibilité de... D'ailleurs, voilà. Ça, Benjamin Constant le disait, ça lui paraissait ridicule qu'il puisse y avoir une morale à un texte. Il voulait qu'il y ait un résultat moral, c'est-à-dire que le lecteur soit conduit à réfléchir, mais en tout cas que le livre ne propose pas de morale, et ça, il en prend bien soin, justement, en mettant des avis d'éditeurs, des lettres d'éditeurs, etc., qui, chacune, ont leur interprétation et la laissent donc ouverte pour nous.
Oui, parce qu'il a été, effectivement... semble-t-il frappé ou blessé de deux lectures divergentes, mais qui finalement détruisent également le caractère littéraire, le caractère d'écriture du roman. D'un côté, il s'est vu reprocher d'avoir publié une sorte d'autofiction avant la lettre, d'une certaine façon, d'avoir déguisé dans Adolphe ses relations difficiles avec Germaine de Staël. On l'a assez nommément accusé de ça, voilà. Et d'autre part, effectivement, de proposer une histoire plutôt moralisante, destinée à illustrer les dangers d'un certain comportement amoureux, pour le dire vite, comme ça. Il a fallu qu'il résiste sur ces deux fronts-là. Mais le fait est que d'abord, en effet, il a ajouté ces deux lettres destinées à couper court à ce genre de réduction interprétative, et que d'autre part... Et ça, vraiment, quand on le lit, c'est stupéfiant. Tout le texte était habité par cette voix d'Adolphe, cette voix qui se creuse, qui se fouaille, qui rouvre ses plaies et qui essaye de les sonder, sans jamais arriver au fond. Et ce texte, écrit par cet homme qui disparaît, se termine, c'est pas que ça se perde dans les sables, mais il s'efface derrière deux très très longues citations de la voix écrite de la femme perdue.
Surtout que, encore une fois, Adolphe est donc le récit d'Adolphe sur la liaison, mais on n'a que le point de vue d'Adolphe, hein, puisqu'on n'a que d'Elénor, nous ne savons que ce qu'il nous dit. Donc, en effet, là, c'est un des rares moments où elle s'exprime directement. Dans le texte, il y a des restitutions de leur dialogue, des petites restitutions, mais là, en effet, elle a la parole.
Il la lui cède et littéralement il s'efface derrière. Et ce que je vous disais des guillemets est particulièrement frappant là, c'est ces longues plages de la parole d'Elénor ne sont pas encadrées de guillemets. Mm-hmm. Elles ne sont absolument pas. La parole d'Adolphe et celle d'Elénor se fondent vraiment et celle d'Adolphe s'efface. Hein, c'est comme une sorte de fade-out, quasiment presque un effet sonore, où on n'entend plus que sa voix à elle, mais qui est la voix de celle qui a déjà disparu. C'est un effet vraiment. C'est remarquable. Et la dernière fois que Adolphe, lui, parle de lui, avant de céder la parole dans ce dernier long paragraphe à Elénor, il dit ceci : j'étais libre, en effet, je n'étais plus aimé, j'étais étranger pour tout le monde. Un étranger. Vous avez dû être sensible à cette. Faut-il dire étrangeté d'ailleurs ou étrangèreté ? C'est un terme que vous utilisez parfois.
Dans le cas d'Adolphe, je pense qu'il s'agit bien d'étrangèreté, d'une façon d'être au monde qui le sépare de ses semblables. C'est ça qu'il y avait dans la première description que j'en ai lue, une difficulté à adhérer, à se sentir comme ce qui l'entoure. Hein. C'est ce que j'appelle étrangèreté.
Mmh. Et alors finalement, pour reprendre un terme auquel vous avez consacré tout un livre, et dans lequel d'ailleurs vous consacrez un bref chapitre à Adolphe, enfin bref, c'est quand même un des plus longs du livre, Adolphe est-il un imposteur ? Enfin, il faut d'abord préciser que vous donnez à un imposteur un sens bien particulier, vous parlez du sentiment d'imposture, et pour distinguer des imposteurs qui assument d'occuper une place à laquelle ils n'ont pas droit et qui jouent le rôle qu'ils doivent jouer pour occuper cette place usurpée. Pour distinguer ces imposteurs-là des gens qui éprouvent un sentiment d'imposture, qui ont le sentiment d'être des imposteurs, qui ont le sentiment de ne pas être à la place, qui ont le sentiment de ne pas occuper une place à laquelle ils devraient avoir droit.
D'être pas légitime.
Ces imposteurs-là, vous les mettez en italique et vous vous demandez dans ce beau chapitre si effectivement Adolphe, lui, ne serait pas un imposteur en ce sens. Quelqu'un qui, au fond, n'aura jamais eu le sentiment qu'il occupait la place qu'il aurait dû occuper.
Oui, je ne sais pas si j'ai raison, mais il me semble qu'à cause du rapport étrange qu'il a avec Elénor, il vit comme un imposteur de l'amour, comme quelqu'un qui, en effet, n'occupe jamais pleinement la place de l'amoureux, disons. Et je le liais aussi au fait que, à mon avis, il y a un soubassement, pour le coup, inconscient à l'histoire d'Adolphe et Elénor. C'est une hypothèse, mais je trouve qu'Elénor a un comportement avec lui de ce que j'appellerais mère abusive. En tout cas, qu'il la met à cette place de mère abusive, plutôt. Et c'est un livre étrange, parce que vous avez vu, il y a une description du père, il n'y a pas de mère. Adolphe n'a pas de mère. À peine a-t-il il rencontre une femme qui le forme dans sa jeunesse, avec qui il parle de la mort. J'ai arrêté à ce moment-là, mais il allait continuer en disant qu'il a discuté avec elle. Elle lui a appris l'importance de réfléchir à la mort, etc. Et cette femme, en réalité, c'est surtout un double par anticipation de ce que sera Elénor. C'est une femme un peu qui s'est mise en délicatesse avec la société à cause de sa liberté. Mais pas de mère chez Adolphe. Et en revanche, on a cette mauvaise mère qui est Elénor, qui abandonne ses enfants. et qui et avec la qu'Adolphe a une drôle de façon de regarder. Je pourrais vous citer tous les passages du texte où il dit constamment qu'il avait horriblement peur de l'affliger. Et c'est curieux finalement que le sentiment qui le domine souvent avec elle et qui explique cette spirale répétitive, c'est que pour s'en libérer, il faudrait qu'il l'afflige, bien sûr. Il faudrait qu'il lui dise « je ne t'aime pas » ou quelque chose comme ça. Outre qu'on n'est pas si sûr qu'il ne l'aime pas, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais nombreux sont aussi les passages du texte où il dit que s'il avait eu le loisir de savoir où il en était d'une certaine façon, peut-être qu'il se serait aperçu qu'il l'aimait. Seulement, elle exerce sur lui une telle pression qu'il n'a pas la liberté de savoir s'il l'aime. C'est un peu le problème d'Elénore, hein, cette pression amoureuse qui fait qu'il ne sait pas. Et chaque fois qu'ils sont séparés, il est tout étonné de sentir qu'elle lui manque, par exemple. Bref, donc j'allais vous parler d'autre chose. Oui, j'allais dire que donc Elénore a ce côté femme abusive, mère abusive. Regarde, dit-elle sans le dire, tout ce que j'ai fait pour toi. Et en effet, tant de sacrifices. Donc regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Comment pourrais-tu me quitter ? Et lui-même est dans la position d'un enfant à qui sa mère dirait « Alors avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas t'en aller maintenant ?» Et donc il ne peut pas partir, il reste. Et je me demande si là il n'y a pas vraiment une détermination inconsciente du texte. C'est-à-dire que je fais rarement ce genre d'aller-retour entre la vie de l'auteur et l'œuvre et ça me déplaît. Mais enfin, vous savez que Benjamin Constant n'a pas eu de mère puisque sa mère est morte des suites de sa naissance. Après ses couches, donc pour lui, enfin, à Benjamin Constant, d'une certaine façon, a tué sa mère. Et du coup, que dans ce roman, son rapport amoureux avec Elénore soit construit sur ce modèle de la mère abusive et de l'enfant qui craint tellement d'affliger sa mère, je me demande s'il ne faut pas y voir cet ancrage dans la vie de Benjamin Constant.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'Adolphe n'a pas de mère. Et qu'Elénore, elle, n'a pas eu de père. En effet, vous l'avez rappelé dans un premier texte, on oublie souvent la situation d'Elénore, mais Elénore, elle aussi, a été historiquement déracinée. Les pages de Jean-Marie Roulin dans son introduction là-dessus sont vraiment remarquables, très éclairantes. On est vraiment dans une situation historique où il y a eu un grand déracinement, un grand bouleversement européen, post-révolutionnaire, et de fait, ça se traduit chez Adolphe par un être sans mère, et chez Elénore, par un être sans père, puisqu'elle est élevée en France, loin de sa patrie, la Pologne, par sa mère, alors que le père, lui, a disparu, on ne sait où. Son père l'appellera auprès d'elle dans sa vieillesse.
Quand il retrouvera ses biens et ses propriétés.
Voilà, mais elle ne le retrouvera pas. Elle sacrifiera à Adolphe jusqu'à ses retrouvailles avec son père.
C'est ça.
Oui, c'est un texte dont on pourrait vraiment parler très 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 longuement. Vous avez peut-être quelque chose, une dernière petite chose, un regret à formuler sur ce qu'on on aurait pu dire de plus, Belinda Cadon, parce qu'il faut malheureusement que nous interrompions.
Tant de choses. Non, tant de choses. Désolé qu'on soit obligé d'arrêter.
Ben oui, moi aussi. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un texte qui se relie très vite et très bien. C'est un texte court, tendu. On hésite presque à le qualifier de nouvelle. Il est tellement impeccable dans son dessin, ce roman, qu'on a parfois le sentiment que... Enfin, je l'ai relu d'une seule traite. Vous l'avez découvert, dites-vous, à 25 ans. Ce qui, je crois, fait de tous les auteurs que j'ai eu le plaisir de recevoir ici, ce fait de vous le coup de cœur le plus tardif. Très souvent, les auteurs ont lu Balzac à 13 ans ou Proust à 17. Et là, vous avez découvert Adolphe à 25 ans et vous l'avez découvert dans une série de coups de cœur qui était précisément consacrée au cœur, d'ailleurs, puisque vous l'avez lu en même temps que La Princesse de Clèves.
Mais si vous m'invitez, enfin si Garnier Flammarion veut bien m'inviter à préfacer Cro-Blanc, je vous dirai mon coup de cœur de 11 ans.
Ah ben voilà, ce sera très volontiers. Une dernière petite chose pour signaler à propos du rapport au père et à l'importance du rapport fondateur, ou, y compris dans le déchirement, comme on vient de le voir, qu'un destin peut nourrir avec le père et la façon dont on s'enracine dans ce que le Père transmet, dans ce que le Père vous passe, même dans ses silences, et non pas par ses principes ou par ses leçons, mais simplement dans sa façon d'être, c'est précisément le sujet que vous traitez dans votre dernier livre, Le Don du Passeur, qui est un très très beau livre et qui est le portrait d'un père qui est remarquable. Le portrait est remarquable et visiblement le père l'était aussi. Belinda Cadon, merci beaucoup.
Merci.